Nous sommes le premier dimanche du mois. Aujourd'hui, nous allons, ceux qui sont au Seigneur, participer à la table du Seigneur. C'est un temps de communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et les uns avec les autres. Quelques fois où l'apôtre Paul, dans les Écritures, parle de la table du Seigneur, c'est dans l'Épître aux Corinthiens. Et il y parle dans un contexte, il en parle dans un contexte correctif. Au chapitre 11, il parle pour souligner les problèmes, les difficultés qu'avait l'Église, les divisions qu'il y avait dans l'Église et le désordre qu'il y avait autour de la participation à la table du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, il en parle pour traiter un problème de compromis, d'utilisation de la liberté qu'avaient ces Corinthiens. Ils avaient pris quelques libertés dans leur liberté, si j'ose dire, et l'apôtre Paul doit aussi les corriger sur cette question des compromis qu'ils pouvaient avoir avec le monde. Et la vie chrétienne, l'exercice de la vie chrétienne, présente toujours parfois pour nous le risque de compromis. Il y a des connaissances que l'on acquiert au fur et à mesure, et puis des libertés que l'on peut prendre au fur et à mesure du temps, et nous pouvons commencer à faire des compromis. Et dans le chapitre 10 de l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de ces compromis-là. Il va corriger quelques erreurs de pensée qu'avaient certaines personnes, en tout cas pas mal, dans l'église de Corinthe. Donc, je vous demande donc de prendre dans votre Bible 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, l'église de Corinthe, bien sûr, est une église qui était en région païenne, et elle subissait certainement la pression de la culture ambiante, comme nos églises peuvent le subir encore aujourd'hui. On peut ressentir de la pression socio-culturelle. Notre culture, par exemple, a rejeté Dieu et toute référence à Dieu. Et puis, elle place maintenant la confiance dans le matérialisme, dans le relativisme, dans le consumérisme, dans tout ce que vous voulez, sauf en Dieu. À l'époque de l'Église de Corinthe, le polythéisme était bien sûr de mise. Il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de temples à Corinthe, et cela faisait partie, on pourrait dire, intégrante de la vie des Corinthiens. On trouvait le temple d'Aphrodite, d'Apollon, je crois, Poséidon, il y en a plein que vous pouvez trouver dans vos recherches. Donc c'est dire combien il y avait de, entre guillemets, de dieux, de types d'adoration à Corinthe. Et parmi les multiples pressions que pouvaient ressentir les chrétiens de cette époque-là, auxquels l'apôtre Paul écrit, il existait cette question de consommer des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, peut-être que ça ne nous dit rien dans l'époque où nous vivons, mais pour eux, c'était quelque chose, une pression qu'ils pouvaient fortement ressentir. Alors, que ce soit de la viande sacrifiée aux idoles qui était après vendue sur le marché, qu'ils pouvaient acheter. Certains avaient des problèmes de conscience avec ça. Est-ce que je peux acheter de la viande sacrifiée aux idoles, amener ça chez moi, faire cuire ça, et puis ensuite le manger? Ou bien parfois, l'apôtre Paul dit qu'un non-croyant aussi pouvait inviter un chrétien à manger de la viande qui avait été sacrifiée aux idoles. Et pour certains chrétiens de l'Église, il n'y avait aucun problème à le faire. Et pour d'autres, ça leur posait des questions, des problèmes de conscience. Alors, Paul traite cette question de cet usage des libertés que l'on a depuis le chapitre 8, chapitre 9, et puis aussi chapitre 10 de l'Épître aux Corinthiens. Donc, il expliquera, il va dire, que la consommation de viande sacrifiée aux idoles ne pose pas de problème. Vous pouvez acheter de la viande sacrifiée aux idoles, la manger, la consommer. Vous pouvez être invité et sans vous poser de questions. Ne posez pas la question si elle a été sacrifiée ou pas. La viande, c'est de la viande. Vous pouvez la manger. Et puis, il dit, si vous êtes invité par un non-croyant et qu'il vous offre de la viande à manger, ne posez pas de questions. Vous mangez, vous remerciez Dieu, vous vous réjouissez de ce bon repas, de la bonne qualité de la viande que vous avez mangée. Il dit seulement, si quelqu'un vous dit, cette viande a été sacrifiée aux idoles. Donc là, il y a quelque chose d'autre qui se passe, non pas sur la viande, mais sur l'avertissement qu'il donne. Il y a un problème de conscience quand il vous le dit, et donc il va interpréter votre consommation comme quelque chose. Alors là, vous faites attention. Vous faites attention. Alors, bien sûr, certains chrétiens, ils ont dit, je suis d'accord avec ça. Pas de souci, pour manger de la viande sacrifiée aux idoles, je peux l'acheter, je peux en manger chez quelqu'un qui m'invite, sans poser de questions. Et donc, je peux aussi aller au temple, assister à un banquet, à des sacrifices qui sont faits en l'honneur des dieux, des idoles païennes, et manger de la viande sacrifiée aux idoles. Ça ne me pose pas non plus de problème. Et Paul dit stop. Il dit non. Il dit attention, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Manger, acheter une viande, le privé, vous la mangez, vous êtes invité, vous mangez sans poser de questions, on ne vous dit rien, vous en mangez, il n'y a pas de souci. Mais participer à un banquet dans un temple et vous associer avec ceux qui offrent les sacrifices et manger la viande qui a été sacrifiée aux idoles est un problème. C'est pas la viande sacrifiée aux idoles qui est un problème. C'est la participation à cette cérémonie, à ce culte qui est rendu, qui devient un problème. Et donc, vous voyez, les Corinthiens avaient ce problème-là de compromis qu'il y avait dans leur vie. Ce qu'ils faisaient, ils étaient des chrétiens, et puis ils pensaient ici que certains pensaient que c'était mal, mais d'autres pas mal pensaient qu'il n'y avait aucun problème avec ça, parce que les idoles ça n'existe pas, parce que de la viande c'est toujours de la viande, et qu'elle soit consommée ici ou là, c'est la même chose. Et Paul dit attention, il faut réfléchir de manière plus fine lorsqu'il s'agit de s'associer ou de participer, parce que vous risquez de tomber dans le compromis. Et surtout, quand on lit le chapitre 10 au verset 14, dans l'idolâtrie. Donc il dit, il va rectifier des erreurs que commettait cette église. Et là, une des erreurs qu'il commettait était celle de croire que il suffit de jouir de pleins privilèges, de participer, d'être un chrétien, de participer à l'église, aux ordonnances, pour être protégé de tout. Ça, c'était une première erreur qu'il commettait. Une deuxième erreur, c'était sur la nature de la participation qu'il pouvait avoir dans d'autres associations. Il pensait que le fait de s'associer, de manger, etc., ça n'avait aucun impact spirituel. Paul dit non, ça a un impact spirituel. Et puis, il pense, une troisième erreur était qu'il pensait qu'il pouvait faire deux choses complètement différentes. Peut-être le dimanche, avec l'église en train de participer à la table du Seigneur, et puis en semaine, je peux être avec d'autres en train de faire autre chose et qu'il n'y a pas, en fait, de problème à faire les deux choses. Et je crois que Paul corrige ces trois choses-là. Alors, on va lire d'abord et puis on va revenir sur ces trois erreurs que Paul traite dans cette lettre. 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, vous avez trouvé déjà où ça se trouve. Alors, on va lire à partir du verset 14. Jusqu'au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, jusqu'au verset 22. L'apôtre Paul dit ceci, plutôt l'Esprit de Dieu à travers l'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons en pleine direction de ton esprit, afin que nous comprenions ta parole, que tu nous donnes des cœurs soumis, que tu soumettes notre volonté à obéir à ta parole, que tu soumettes notre pensée, notre intelligence pour recevoir aussi ta parole, que tu soumettes notre cœur pour aimer ta parole et pour t'aimer. Nous te prions en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Alors, le titre du message ce matin, c'est une question. La table du Seigneur ou la table des démons? La question que ce texte nous pose. Participez-vous à la table du Seigneur ou à la table des démons? D'après le verset 21 que nous avons lu, il est dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc se pose la question pour nous, la table du Seigneur ou la table des démons? Et la première chose que je voudrais souligner ici, que l'apôtre Paul souligne, donc dans une partie que nous n'avons pas lue, qui vont du verset 1 jusqu'au verset 13, c'est que l'expérience de privilège spirituel ne garantit pas l'approbation de Dieu. L'expérience de privilège, avoir fait l'expérience de privilège spirituel ne garantit pas l'approbation de Dieu. Chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 13. Et sans doute, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'une des erreurs que commettaient les membres de l'église de Corinthe, qui consistait à croire que d'avoir été baptisé, de participer à la Sainte Cène, de partager les expériences communes avec tous les autres chrétiens, cela les assurait une certaine protection contre les dangers spirituels et qu'ils pouvaient se permettre de faire ce qu'ils voulaient sans trop prendre de précautions, parce qu'après tout, ils sont baptisés, ils participent à la table du Seigneur, ils sont dans une bonne communauté et ils sont donc en sécurité. Et Paul dit non. Il dit attention, l'expérience de privilège spirituel ne garantit pas l'approbation de Dieu. Et il va énumérer, il va prendre l'exemple du peuple d'Israël et il va énumérer toutes les bénédictions, en tout cas beaucoup des bénédictions qu'ils ont eues au chapitre 10 et au verset 1. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous, et soulignez bien comment il dit ça, nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc il dit, voilà, ils ont participé à bon nombre de privilèges spirituels. Il établit vraiment toute une liste de choses et ils ont tous, sans exception, tous, ils ont participé à ces choses, ils ont connu, ils ont assisté, ils ont été intégrés dans Moïse, ils ont traversé à sec la mer, ils ont mangé de la manne, ils ont connu, ils ont expérimenté de grands privilèges spirituels que d'autres n'ont jamais expérimenté dans leur vie. Mais au verset 5, il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Il dit, les privilèges spirituels dont ils ont été les bénéficiaires n'a pas garanti l'approbation de Dieu. Ils ont été désagréables à Dieu et Dieu les a fait périr dans le désert. D'accord ? Ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient trop vieux, ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient malades, ils sont morts parce qu'ils ont été désobéissants, malgré tous les privilèges qu'ils avaient reçus. Bien que jouissant de tous des mêmes privilèges spirituels, la Bible dit, la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Ils ont péri dans le désert à cause de leur incrédulité. Vous pouvez lire ça en Nombre, chapitre 14, verset 26. Ils ont eu de mauvais désirs. Ils ont été idolâtres dans l'affaire du veau d'or, en Exode, chapitre 32. Ils se sont livrés à la débauche. Ils ont provoqué le Seigneur, dit l'apôtre Paul, et ils ont murmuré. On trouve tout ça des versets 6 jusqu'au verset 10. Regardez, il dit, « Or, ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme ils tentèrent quelques-uns, comme quelques-uns le tentèrent, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Autrement, il dit, ils ont tous joui de bénéfices, de privilèges spirituels, mais ils ont commis toutes ces choses. On peut jouir de privilèges spirituels et être désobéissant. On peut jouir de privilèges spirituels et murmurer. On peut jouir de privilèges spirituels et provoquer la jalousie du Seigneur. On peut jouir de privilèges spirituels et se livrer à la débauche. On peut jouir de privilèges spirituels et devenir idolâtre. Alors il dit aux Corinthiens, attention, ne croyez pas parce que vous participez à un certain nombre de choses qui sont des privilèges spirituels, que vous êtes à l'abri ou que vous plaisez à Dieu. Parce que voyez l'histoire du peuple d'Israël. Avec tous les bénéfices qu'ils ont eus, ils ont tous péri dans le désert. Combien sont entrés à Canaan? Deux. C'est pas beaucoup, hein? C'était 600 000 hommes à sortir d'Égypte. On compte à peu près plus d'un million avec les enfants et les femmes. Pérégrine 40 ans dans le désert et deux rentrent dans le pays de Canaan. Alors l'apôtre Paul dit ici, attention. Et il dit en plus au verset 6 et au verset 11, deux choses qui sont très importantes. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et cette expérience-là doit être une sonnette d'alarme pour chacun d'entre nous, dit-il aux Corinthiens, donc pour chacun d'entre nous aujourd'hui, pour que nous ne croyions pas, que nous ne nous bercions pas d'illusions, que nous ne nous enveloppions pas dans un manteau de fausse sécurité, en croyant que parce que nous avons participé à un certain nombre de privilèges, eh bien nous sommes à l'abri de tout. La participation au culte chrétien, aux ordonnances du baptême, à la Sainte Cène, à l'expérience de la nourriture, de la parole, à l'assistance dans une bonne église, ne garantissent absolument pas l'approbation de Dieu. Toutes ces choses sont bien. Ce sont des privilèges que Dieu donne. Ce sont des privilèges spirituels. Mais elles ne sont en aucun cas des protections qui nous permettent de vivre comme on a envie de vivre. Et donc, on peut participer à un culte chrétien dans tous ses aspects et en même temps être désagréable à Dieu. Et c'est le point que Paul cherche à établir en premier lieu ici pour ses croyants. L'expérience de privilèges spirituels ne garantit pas l'approbation de Dieu. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que la participation à un culte rituel implique une communion spirituelle. La participation à un culte rituel, on va observer des choses, manger, participer à quelque chose, ça implique une communion spirituelle. Il met donc cette seconde vérité en lumière pour des Corinthiens. C'est une vérité à laquelle ils ne pensaient pas. Ils avaient, je crois, fait un grossier raccourci entre ce que Paul avait dit quand il dit au chapitre 8 que les idoles, ça n'existe pas. Il y en a qui ne savent pas ça, mais les idoles, ça n'existe pas. Manger de la viande, sacrifier aux idoles, ça ne change rien. D'accord? La viande, c'est toujours un amas de muscles, de nerfs, etc. Enfin, ce que vous voulez. Qu'elle soit sacrifiée aux idoles ou pas, ça ne change rien. Absolument rien. Alors, de là, certains avaient, hop, sauté le pas en disant, je peux aller le manger dans le temple des quand les amis m'invitent, etc., dans le temple, participer à la fête qui se donnait à l'honneur d'Aphrodite ou de, je sais plus, Apollon, etc., et puis en manger. Et Paul dit non, parce qu'il y a une autre vérité à laquelle vous devez être, dont vous devez avoir conscience. Certes, dit-il, la consommation de viande sacrifiée aux idoles n'est pas un problème, mais il dit, la participation dans un temple qui consiste à manger de la viande sacrifiée aux idoles est un problème. Si la consommation n'est pas un problème, la participation assise dans un temple d'idoles est un problème. Et les versets 16 jusqu'à 20 établissent ici le lien qui existe entre la participation rituelle et la communion spirituelle. Voyez ça, regardez, verset 16 jusqu'au verset verset 16 jusqu'au verset 20 à peu près. En passant au verset 15, l'apôtre Paul dit: soyez des hommes, je parle comme à des hommes intelligents, jugez-en vous-mêmes. Donc il les appelle à une réflexion ici. Il dit, jugez-en vous-mêmes. Et ce qu'il va montrer, c'est que la participation à un culte rituel implique une communion spirituel. Regardez le nombre de fois où il parle de communion et de participation. Verset 16, je vais lire. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou que l'idole est quelque chose? Non, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Autrement dit, il dit qu'il y a un lien entre le fait de participer physiquement, extérieurement à quelque chose, manger, être avec les autres, et puis il y a un lien entre cela et puis une communion spirituelle. Il dit, ne croyez pas que c'est neutre lorsque l'on fait cela. Lorsque vous participez à un temple d'idoles en train de manger, à un festin offert à l'honneur d'eux, il y a plus que le fait de manger en l'honneur d'eux. Et il va prendre, c'est là qu'il utilise la table du Seigneur pour montrer cette vérité. Il prend la table du Seigneur, on pourrait dire qu'il y a trois tables ici, hein, la table du Seigneur, la table des Israélites et la table des démons. Et le point auquel il veut arriver, c'est au verset 20, quand il parle de la table 20 et 21, quand il parle de l'association avec les démons. Et donc, il dit, premièrement, ici, versets 16 à 18, que la participation, 16 à 17, on pourrait dire, que la participation à la table du Seigneur implique la communion avec le Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Quand je participe à la table du Seigneur, quand je prends le pain, je le mange, quand je prends la coupe, je le bois en tant qu'enfant de Dieu, il dit, je ne fais pas que manger et boire. Ça c'est l'aspect extérieur des choses. Mais j'exprime par là, et pour les autres qui me regardent, que je suis en communion avec Dieu et avec Christ dans ce qu'il a fait. Le repas est un repas de communion. Et l'apôtre Paul dit cela sous forme de question rhétorique. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La réponse évidente est oui. Hein? C'est pas qu'il connaît pas la réponse, sa question force la réponse. La réponse, c'est oui. Deuxième question, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La réponse est oui. D'accord? Et donc, il dit, puisque nous rompons un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il dit même que ça va encore au-delà de la communion avec Christ, ça va aussi, ça exprime la communion les uns avec les autres. Tous ceux qui partagent le même pain expriment leur communion avec Christ. Ils s'associent avec Christ. Et donc, il insiste sur cette vérité. La participation d'un croyant à la table du Seigneur, c'est l'expression même de sa communion avec le Seigneur. Une communion donc spirituelle. Et le but, c'est d'amener les chrétiens à saisir que ce lien qui existe entre l'adoration, entre une activité cérémonielle extérieure, visible, d'accord, et la réalité spirituelle, intérieure, invisible, qui est connectée à cette action-là. Il ne faut pas prendre une action comme celle-là seulement pour une action. Manger de la viande, c'est manger de la viande, c'est vrai. Mais manger de la viande en étant associé aux autres qui adorent une idole, ça n'est pas anodin. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe à ce moment-là. Et donc, il pose des questions pour les amener à réaliser cette vérité. Il y a une réalité spirituelle derrière le geste. Il y a une réalité spirituelle derrière le geste. Et donc, quand on s'approche de la table du Seigneur, qu'on mange le pain et qu'on broie la coupe, eh bien, on exprime qu'il y a une signification spirituelle dans ce que l'on fait. Alors, on peut souligner en passant, chers frères et sœurs, que la participation à la table du Seigneur n'est pas seulement un mémorial, seulement un souvenir. Il ne faut pas qu'on la présente juste, c'est juste un souvenir de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, c'est ça, puisque Dieu dit, le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais ça n'est pas que cela. Il y a une communion spirituelle qui se passe là. Parce que si tel n'était pas le cas, le fait que Paul utilise la table du Seigneur pour montrer la communion qui risque d'arriver avec les démons, eh bien, n'aurait pas de sens. S'il n'y avait pas de réelle communion spirituelle avec Christ dans ce moment spécifique où on prend la table du Seigneur, eh bien, son argument n'aurait aucun poids pour dire qu'il y a une communion possible avec les démons lorsqu'on s'associe à la table des démons. Donc ça souligne en passant que il se passe, c'est plus qu'un souvenir simplement. Quand on participe à la table du Seigneur, eh bien, on exprime une communion avec Christ, une communion spirituelle. Christ n'est pas physiquement présent, mais il est réellement présent, spirituellement présent, et nous sommes en communion avec lui spirituellement par la foi. C'est ce que nous exprimons dans le repas que nous prenons. Donc, la participation à la table de Christ, à la table du Seigneur, implique une communion avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul va plus loin, il donne un exemple. Verset 18, il dit, « Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ?» Il dit que la participation au sacrifice lévitique, donc il prend l'exemple du peuple d'Israël, implique une communion aussi avec l'autel. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être en communion avec la matière de l'autel. Vous comprenez bien cela. Ce qu'il exprime ici, c'est que ceux qui participent à ces sacrifices, qui les mangent, c'était des sacrifices d'expiation, des sacrifices de culpabilité, ceux qui participent à cela et qu'ils mangent, ils sont au bénéfice de tout ce que cela représente. Ils sont associés à tout ce que cela représente, à l'expiation des péchés, à la reconnaissance, au fait de d'ôter la culpabilité. Il dit, voilà, ceux qui mangent ces sacrifices, eh bien, ils expriment qu'ils font partie du peuple de Dieu, qu'ils sont au bénéfice du pardon que Dieu accorde à travers de ces sacrifices. Donc, ils sont en communion avec ce que l'autel représente, avec ce que l'autel signifie. Et les Corinthiens ne peuvent pas dire non, effectivement, hein, participer, ça veut dire épouser tout ce qui est fait, ça veut dire être en communion avec tout ce qui est représenté par ces sacrifices. Et donc, il arrive au verset 19 et 20, et il montre finalement, c'est son point, c'est là où il veut arriver, il dit la participation donc au sacrifice païen implique la communion avec les démons. Il dit, attention, quand vous participez à la table du Seigneur, vous exprimez votre communion avec Christ. Et il y a une communion. De même que les Israélites aussi, les sacrifices lévitiques étaient en communion avec tout ce qui se passait au niveau de l'autel. Lorsque vous participez à un service païen, à un sacrifice, eh bien cela implique une communion avec les démons. C'est ce qu'il dit. Il dit, que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Il revient là-dessus, il dit, non, c'est rien. Ou qu'une idole est quelque chose ? Non, une idole, ça n'existe pas. Aphrodite n'existe pas, Apollon n'existe pas, les autres n'existent pas non plus. Les idoles, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il dit? La viande sacrifiée aux idoles, ça n'est jamais que de la viande. Il n'y a aucun esprit qui rentre dans la viande, etc., qui fait quelque chose. Non, c'est pas vrai, il dit. Si vous croyez ça, vous êtes dans l'erreur. Mais il dit, là où vous vous trompez, c'est que vous croyez que, pour certains d'entre vous, que le fait de manger de la viande sacrifiée aux idoles assis dans le temple, etc., en communion avec les autres, n'a aucun impact. Moi, je vous dis qu'il y a un impact spirituel. Vous risquez d'être en communion avec les démons. Les idoles, ça n'existe pas. Mais les démons existent. L'idole n'est qu'un bout de bois. Si vous prenez le bout de bois, vous l'érigez, vous dites ça c'est Aphrodite. Ben, ce n'est qu'un bout de bois. Il ne fera jamais rien de plus que ce qu'un bout de bois peut faire. Mais ce qui conduit à fabriquer ces bouts de bois, l'esprit qui a derrière, qui agit pour qu'on puisse croire ces choses, c'est Satan et ses démons. Et ceux-là sont bien réels. Et vous ne devez pas être méconnaissant à ce sujet. La viande sacrifiée aux idoles n'est rien. L'idole n'est rien. Mais derrière l'idole à qui la viande est sacrifiée, il se cache une réalité spirituelle réelle qui n'est pas divine. Il dit qui n'est pas Dieu. Regardez bien comment il dit ça. Il dit, nullement, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à qui? Pas aux idoles, mais à des démons. Et non à Dieu. Pourquoi non à Dieu? Parce qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu et puis des petits dieux, des petites divinités qui se promènent partout. Il dit non, non, au chapitre 8, il dit ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu, dit-il au chapitre 8. Un seul Dieu. Et il n'y a pas d'idole. À côté de ça, il y a des démons qui ne sont pas divins. Ils ne sont pas Dieu. Il ne faut pas confondre les choses. Ce sont des esprits, des anges déchus qui sont réellement derrière ce que l'on fait. Et par exemple, si vous lisez le Deutéronome chapitre 32, verset 17, Moïse, Dieu, on peut regarder ça, hein, Moïse, Deutéronome 32, verset 17. Alors, Deutéronome chapitre 32, cinquième livre de la Bible, verset 17. Moïse parle du peuple d'Israël. Il dit, verset 15, il dit, l'Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie. Ce que Paul dit au verset 22, rappelez, hein. Ne pas exciter la jalousie de Dieu. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils ont irrité par ses des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Les idoles ne sont pas Dieu. C'est des bouts de bois, c'est rien du tout. À des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Voilà, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Mais Paul dit, quand on sacrifie à des idoles qui ne sont pas Dieu, le risque que l'on prend, c'est de sacrifier à des démons. Parce que les démons, eux, sont derrière ces choses. Et ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. L'activité des démons est réelle. Ce sont des esprits mauvais qui peuvent influencer le chrétien. Et les démons cherchent toujours à séduire les chrétiens, à voir des églises entières remplies de fausses doctrines. Par une sagesse, on pourrait dire démoniaque surtout, la Bible dit dans les derniers temps, l'apôtre Paul le dit, hein, Timothée 4.1, il dit, l'Esprit dit expressément, quoi, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de... Ils ont de la doctrine, les démons. Ils ont de la doctrine théologique, hein. C'est ce que la Bible dit ici. Il y a une doctrine, une structure, des choses, des pensées qui sont bien établies, bien faites, un objectif. 2 Corinthiens 2 dit que Satan a des desseins, que nous ne devons pas ignorer. C'est pas au jour le jour, non. C'est structuré. Il y a une pensée, il y a quelque chose qui est visé. Et derrière ces idoles, eh bien, Paul dit qu'il y a des démons qui se cachent. Derrière tout culte qui n'adore pas Jésus-Christ véritablement, il y a les idoles qui se cachent. Quel que soit le culte. Si Christ n'est pas adoré, si c'est autre chose qui est adoré, c'est des idoles à qui on sacrifie, à qui l'on offre. C'est des démons, pardon, que l'on adore. Et Paul dit, or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les idoles. Il dit, parce que on sacrifie à des idoles, à ce moment-là, on participe à un repas qui est en l'honneur des idoles, des démons, pardon. Eh bien, vous risquez d'être en communion avec les démons. De même que quand vous participez à la table du Seigneur, vous êtes en communion avec le Seigneur. Les Israélites aussi l'étaient. Et donc, vous, si vous participez à cela, vous risquez, c'est une porte ouverte, d'être sous l'influence des démons. Et il y a risque de communion avec eux. Vous devenez vulnérable à leur influence. Et voilà comment le chrétien peut devenir vulnérable à l'influence démoniaque. C'est en participant à des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, à des réunions, à des associations, à des cultes, à des manifestations, où vraiment ce qui est adoré, c'est quelqu'un d'autre, autre chose que le Seigneur lui-même. Et c'est une réalité qui ne dépend pas de notre degré de connaissance. C'est une réalité qui ne dépend pas de ce que nous croyons ou non. L'apôtre Paul ne dit pas cela. C'est une réalité qui ne dépend pas du fait que l'on ait conscience ou pas. Il dit que quand on le fait, on participe, on ouvre la porte. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc c'est une réalité qui s'applique de fait à ceux qui participent et qui s'associent dans les festivités païennes. Donc Paul dit, attention, la participation à un culte rituel, à des choses que l'on va faire ensemble, avec d'autres, eh bien, implique une communion spirituelle. Et il y a possibilité pour le croyant qui n'obéit pas à cela, d'ouvrir la porte, d'ouvrir des accès à des influences démoniaques. Et puis, troisième chose que je voudrais souligner, verset 20, ici, verset 21, l'apôtre Paul dit, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Alors, je dirais que la participation, troisièmement, à la scène est puissante pour fuir l'idolâtrie. Ce qu'il dit en substance ici, la participation à la scène est puissante pour fuir l'idolâtrie. Versets 21 et 22. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est la troisième réalité qu'il met en lumière ici concernant le fait de fuir l'idolâtrie. Fuir l'idolâtrie, c'est son point ici. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut fuir l'idolâtrie. Et il explique avec ce qu'on a lu. Pourquoi il faut la fuir. Donc, nous n'oublions pas que c'est son point ici particulier. Mais il montre que, dans ce passage, que la participation à la scène, eh bien, est une puissance aussi qui peut nous aider, nous détourner de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce qu'il dit que vous ne pouvez pas faire les deux. Il ne dit pas vous ne devez pas faire les deux. Vous ne devriez pas faire les deux. Il dit, vous ne pouvez pas faire les deux. Alors, bien sûr, vous pouvez dire, oui, mais je peux faire les deux quand même. Je peux aujourd'hui participer à la table du Seigneur, et puis demain être dans une fête où on adore autre chose. Oui, c'est possible techniquement. C'est possible physiquement. Mais ça n'est pas possible spirituellement. Ça n'est pas possible spirituellement. C'est l'un ou l'autre. La communion avec Christ est exclusive. Et c'est pour cela qu'on trouve, c'est ce que Jésus dit par exemple quand il parle de mammon et de servir le Dieu des richesses et puis de servir, de le servir. Il lui dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il n'a pas dit, nul ne doit servir deux maîtres. Vous ne devriez pas servir deux maîtres. Il dit, nul ne peut. Nul ne peut. Vous pensez que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas. C'est, même si vous n'êtes pas d'accord avec, c'est pas le problème. Le problème est que Dieu lui-même dit que ça n'est pas possible. Alors, ça n'est pas possible. Je peux faire physiquement des choses, mais je crois que je suis en communion à un moment donné là, et puis un moment en communion donné là-bas. Ben non, je dis non, c'est pas possible. Et en 2 Corinthiens, regardez dans 2 Corinthiens chapitre 6, 7, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, et au verset, j'ai pas dans 2 Corinthiens, pardon, chapitre, c'est 6 ou 7, j'ai peut-être mal noté. 14. Oui, c'est au verset 14. Voilà, verset 14. Merci. 2 Corinthiens chapitre 6 et au verset 14, l'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est un verset qu'en général, on n'aime pas trop lire parce que bon, on utilise parfois pour le mariage. Est-ce qu'un chrétien peut épouser un non-chrétien? Et quand on cite ce verset-là, les gens se repiffent un peu. Et puis il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quand on n'est pas au Seigneur, on est dans les ténèbres. Quand on est au Seigneur, on est dans la lumière. Il dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de choses communes entre les deux. Effectivement, vous avez déjà vu la lumière en même temps que les ténèbres? Non, ça n'existe pas. Il dit que c'est l'espèce de séparation qui existe. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ici? D'accord? Les démons, on pourrait dire, hein, aussi. Si Satan, le mot, ce mot qui désigne aussi Satan, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous êtes, n'oubliez pas, la Bible dit, en tant que chrétien, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Il dit ça. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, voilà la conclusion, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Autrement dit, si vous le touchez, je ne pourrai pas vous accueillir. Alors parfois, on peut penser qu'on fait des choses pour Dieu. On peut penser qu'on chante. On peut penser qu'on est en communion. On a fait ceci. Mais Dieu dit dans Amos, je n'écoute même pas. Je n'écoute même pas. On peut penser qu'on a participé et qu'on est en communion. Il dit non, il n'est pas en communion. Lui, il n'accorde pas sa communion. C'est dans notre tête que ça se passe, que nous croyons que nous l'avons. Mais puisque nous essayons de nous asseoir à deux tables opposées, il dit ça n'est pas possible. C'est l'une ou l'autre. Et donc, dans un certain sens, le fait que l'apôtre Paul dise que vous ne pouvez pas vous associer à deux tables, c'est encourageant dans la mesure où quand je vais chercher à me concentrer, à rechercher la communion avec Christ, cela va m'aider à me détourner de la table des démons, des associations qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Donc, la participation à la scène, est puissante pour fuir l'idolâtrie ici. L'apôtre Paul utilise la Sainte-Cène pour expliquer aux Corinthiens qu'il faut fuir l'idolâtrie. Et donc, il ne dit pas ne participez pas à la Sainte-Cène. Il dit non, voilà ce que vous faites quand vous participez. Et la conscience de ce que l'on fait doit nous pousser à nous détourner de l'idolâtrie et de chercher à participer en semaine à autre chose. Alors, chers frères et sœurs, je termine avec quelques mots d'application et de conclusion. Premièrement, dans ce que nous lisons ici, nous voyons que le choix de la scène, comme illustration, montre l'importance capitale de la Sainte-Cène, de celle-ci, dans le culte chrétien. Le choix que Paul utilise, la Sainte-Cène, par deux fois, en Corinthiens 11 aussi, pour régler des situations dans l'Église, montre à quel point la participation à la scène est quelque chose de capital pour le chrétien et pour le culte chrétien. C'est capital. Donc le chrétien qui dit « moi, je ne veux pas participer à la Sainte-Cène », etc., il a un problème avec l'Écriture. Parce que Paul utilise précisément cela pour montrer comment c'est central et à partir de ce que cela représente. Pas la Sainte-Seine toute seule, mais la participation à la Sainte-Seine, eh bien, il montre comment il faut fuir ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est le symbole de la communion du chrétien avec Christ. C'est le symbole de la communion du chrétien, les uns aussi avec les autres. Paul parle de la participation à la Sainte-Seine comme une évidence. Il ne dit pas la coupe de bénédiction que vous prenez peut-être. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Il dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. Nous le faisons régulièrement. Donc, il acte ici que c'est quelque chose qui est fait régulièrement par les chrétiens. Et c'est comme ça que cela doit être. La fraction du pain, rappelez-vous, dans l'église primitive, était quelque chose on appelle ça les quatre pieds de la chaise. Hein, l'un des quatre traits distinctifs de l'église primitive, c'était quoi? La persévérance dans l'enseignement apostolique, la fraction du pain, les prières et la communion fraternelle. D'accord? Et il persévérait en obéissance dans cela. Et donc, ce n'est pas une invitation à ne pas boire la coupe ou à ne pas manger le pain que l'apôtre Paul donne ici dans ce passage, mais plutôt une invitation à participer correctement, sans chercher à faire deux choses qui sont opposées ici. La scène est la célébration du salut, c'est la célébration de l'unité des croyants en Christ, de la communion avec Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, puis-je me soustraire à un acte suprême d'adoration? C'est une question rhétorique comme celle de Paul. La réponse est non, je ne peux pas me soustraire. Je ne peux pas me soustraire. C'est Dieu qui m'invite. C'est un acte d'adoration. C'est l'acte central du culte par lequel je dis que je suis en communion avec Dieu. Quand je ne le fais pas, je ne suis jamais en train de dire que je suis en communion avec Dieu et avec les autres. Et 1 Corinthiens 1, verset 9, l'apôtre Paul dit « Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. » Dieu nous a appelés, il nous sauve pour nous mettre en communion avec son Fils. Et la table, l'apôtre Paul dit, c'est la communion avec Christ dans l'acte le plus suprême de qui s'est produit dans l'humanité, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc je ne peux pas m'y soustraire. Ce qui est exigé, ça n'est pas de se soustraire, de fuir la table du Seigneur, c'est de fuir quoi? L'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui doit être fuie. Il y a des gens qui disent « Oh, je vis dans l'idolâtrie, donc je fuis la table. » Non! Ce que l'Écriture dit, c'est fuyez l'idolâtrie et participez en tant qu'enfant de Dieu à la table du Seigneur. Et pas l'inverse, jamais l'inverse. Donc le choix de la scène, c'était mon premier point d'application, comme illustration, montre l'importance capitale de la Sainte Cène dans le culte chrétien. Deuxième chose que je voudrais souligner en application, c'est que la réalité spirituelle de la communion avec Christ, qui est exprimée dans la Sainte Cène, doit avoir un impact dans la vie de tous les jours. La réalité spirituelle, on a dit, de la communion qui est exprimée dans la Sainte Cène. Quand je m'approche de la table du Seigneur, j'exprime cette communion avec Christ. Quand je mange, je bois, je dis cette communion avec Christ. Eh bien, cela doit avoir un impact dans la vie de tous les jours. La vie du chrétien ne se sépare pas entre le dimanche et les autres jours de la semaine. Quand Paul dit « Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons », il dit « Vous ne pouvez pas être d'une manière le dimanche ». Et une autre le lundi, mardi, mercredi, tous les autres jours de la semaine. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Vous ne pouvez pas faire les deux. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la participation à cette table et ce que cela exprime, la communion que j'exprime avoir avec Christ, doit être manifeste les autres jours de la semaine. Cela nous renvoie forcément à ce que nous faisons dans la semaine. La communion avec Christ, elle est exclusive. Elle n'est pas réservée au dimanche. Et puis, les autres jours de la semaine, je peux donner la communion à autre chose. Non, jamais. Elle est exclusive sur tous les jours de la semaine. Je ne peux pas faire un et puis faire l'autre. C'est impossible. C'est l'un ou l'autre. Et donc, la participation à la scène par la vérité de la communion spirituelle qu'elle exprime, eh bien, elle doit avoir un impact dans la vie de tous les jours. Donc, je ne peux pas m'associer à n'importe quoi en semaine, que ce soit de l'idolâtrie politique, économique, écologique, sentimentale, sportive, je ne sais pas. Je dois réfléchir, ça veut dire que je dois réfléchir absolument dans ma semaine à ce que je fais. Et est-ce que je ne suis pas en train de faire des choses, qu'est-ce que j'adore? Est-ce que mon temps, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube, c'est sur des choses où je passe beaucoup de temps, où je, voilà, où je communie avec d'autres autour de quelque chose que j'aime? Si je fais ça, et que je viens juste le dimanche rapidement en disant « Saint, 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 et le Seigneur notre Dieu », Dieu dit non. Toute la semaine doit être empreinte par le fait que je suis en communion avec Dieu. Le dimanche, je l'exprime particulièrement autour de la scène, mais la semaine, ça doit rester une vérité. Troisième chose que je voudrais, dernière chose que je voudrais souligner, c'est que la réflexion du chrétien doit se situer toujours au niveau spirituel des choses, et pas seulement au niveau matériel, physique, visible ou sentimental. Les chrétiens ici, ils disaient quoi? Ah, manger la viande sacrifiée aux idoles, c'est pas un problème. Aller dans le temple, c'est pas un problème. Donc, ce que je fais extérieurement, physiquement, ça n'est pas un problème. Mais Paul dit non, il y a des moments où il y a une portée spirituelle à ce que vous faites. Il faut toujours, pour un chrétien, réfléchir à la portée spirituelle de ce qu'il fait. Est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui ouvre une porte, un accès spirituel au démon, au mauvais esprit, au diable, à Satan? Et l'apôtre Paul dit, nous ne devons pas être ignorants des desseins de Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en ange de lumière. Et ses disciples aussi se déguisent en apôtres de la justice. Il dit, ils sont là pour vous tromper. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Pas du tout. Pas du tout. Et le chrétien doit être attentif à ces choses-là. Qu'est-ce que je fais dans ma semaine? Quels sont les implications spirituelles de cette musique que j'écoute à longueur de journée, ou de ce feuilleton télévisé que je regarde, de cette activité que j'ai sur les réseaux sociaux? Derrière la neutralité apparente des choses peut se cacher une réalité spirituelle, réelle, dévastatrice. Et il faut que nous soyons conscients de cela. Quelle est cette star que j'adore? C'est mon idole. Les idoles, ça n'existe pas. Mais les démons derrière les idoles, oui. Et en adorant une star du foot, du cinéma ou de n'importe quoi, je m'ouvre. Je m'ouvre à l'influence démoniaque. Parce que je tombe dans l'idolâtrie et l'idolâtrie est démoniaque. Comprenez ce que l'apôtre Paul dit ici, hein? Il dit « Fuyez l'idolâtrie » et il termine par dire quoi? « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » L'idolâtrie est démoniaque. Et donc, quand j'adore quelqu'un d'autre que Dieu, je passe plus de temps à chercher les déboires amoureux, politico, je sais pas quoi, sportifs de tel personnage, et que je ne lis même pas la parole de Dieu, je suis en train d'adorer autre chose et je m'ouvre à cette influence. Quel est ce prédicateur que j'adore? C'est mon idole. Les idoles, ça n'existe pas. Mais même dans ce cas-là, on peut s'ouvrir à des influences aussi qui sont des influences démoniaques. Quand la créature est adorée au lieu du créateur, comme dit l'apôtre Paul, il y a danger d'ouvrir une porte à l'influence démoniaque. Que le Seigneur nous aide. Et je termine avec ce verset que nous n'avons pas lu, que nous n'avons pas dans, nous l'avons lu, mais nous n'avons pas parlé dans le verset 22 du chapitre 10, dit « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Et sommes-nous plus forts que lui ?» Dis attention, hein, si nous nous agissons comme cela, nous nous exposons à la jalousie de Dieu. Est-ce que nous sommes plus forts pour tenir tête à Dieu? Est-ce qu'on va lui le défi en duel? On ne peut pas. Donc il dit « Attention ». Attention. Et je voudrais juste une parole pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ici. On pourrait dire, moi je participe pas à la table, je suis pas chrétien, j'ai pas de problème, etc. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes forcément idolâtre. Parce qu'on adore quelque chose. Et regardez ce que la Bible dit en Apocalypse chapitre 21. Et je termine avec ce verset. 21 verset. Verset 6, il dit, il me dit, c'est fait. Écoutez, si vous n'avez pas encore trouvé, je vais aller vite. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Et donc, si vous avez soif, si vous entendez ces paroles, que vous dites, oui, je veux connaître ce Dieu-là, venez à lui, il dit, je vous donnerai de la vie gratuitement, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les débauchés, pour les magiciens, pour les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et donc la conclusion de tout cela, c'est qu'il faut venir à Christ premièrement, dans la repentance, pour ne pas connaître ce que je viens de lire ici. Et quand on est à Christ, c'est de vivre vraiment pour lui et d'arrêter de nous bercer d'illusions en pensant que nous pouvons danser sur deux pieds. On peut faire ça, un pied dans l'église, un pied dans le monde. C'est impossible. On est à Dieu, on n'est pas à lui. On participe, on est en communion avec Christ, on n'est pas en communion avec lui. Et demandons au Seigneur la grâce de vivre une vie qui où nous sommes attentifs à ces choses et où nous cherchons à lui plaire. Et si jamais nous avons succombé, eh bien la parole est là pour nous dire que quand nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous purifier et pour nous pardonner. Nous pouvons venir à lui dans la repentance et il nous pardonne parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est le grand berger des brebis. Et comme le frère l'a dit ce matin, il nous aime, nous sommes ses brebis et il veut nous panser et nous soigner. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous, dans ces temps où nous allons, ce temps où nous allons maintenant participer à ta table, nous te prions que tu nous aides à le faire d'une manière réfléchie. Que nous puissions prendre au sérieux ces choses. Seigneur, détourne-nous d'une vie de compromission où nous voulons à la fois te plaire et à la fois plaire à nous-mêmes ou à d'autres. Aide-nous à fuir l'idolâtrie, à considérer la grandeur de l'acte que tu as accompli à la croix du calvaire pour nous. Et Seigneur, à être conscient des implications de ce que nous pouvons faire, comme ta parole nous le montre. À croire à ta parole et à soumettre nos cœurs à cette vérité que nous avons vue. Seigneur, aide-nous, nous te prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.